Et on va s'interroger ce matin sur l'impact des sanctions économiques contre la Russie. Impact analysé avec nos deux invités. Philippe Chalmin, vous êtes économiste, historien, professeur à Paris Dauphine, spécialiste des marchés des matières premières et d'énergie. Également, Édouard Simon, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste des politiques industrielles et d'armement. Bonjour à tous les deux. Philippe Chalmin, on va commencer avec vous. Si on envisage l'ensemble des sanctions déjà prises, plus celles qui sont envisagées, est-ce qu'il y a de quoi asphyxier la Russie économiquement?
Asphyxier la Russie, non. Asphyxier certains Russes, peut-être. Je dirais que je reste quand même en matière de sanctions sur ma faim, puisque pour l'instant, le cœur de ce qui fait l'économie russe, je dirais au quotidien, c'est-à-dire ses exportations, n'est pas affectée. Les sanctions n'ont pas affecté ni les exportations, enfin notamment les exportations d'hydrocarbures, qu'il s'agisse de gaz ou de pétrole. Le système russe, bancaire russe, se trouve quand même relativement touché. On n'est pas allé jusqu'à remettre en cause la participation des banques russes à SWIFT. Donc, il me semble que on reste quand même un petit peu l'arme au pied. La vraie sanction, mais elle serait difficile à mettre en place, qui serait le boycott total de toutes les exportations russes, notamment gaz, pétrole, minerais et métaux, etc. Celle-là est probablement d'abord difficile à mettre en œuvre. Elle serait difficile à supporter même pour l'Europe, du fait de sa dépendance au gaz russe. Mais c'est bien là la question. Lorsque nos amis allemands ont dit solennellement « nous renonçons à Nord Stream 2 », ce qu'ils ont oublié de préciser, c'est que Nord Stream 2 n'était pas opérationnel et que pour l'instant, à ma connaissance, Nord Stream 1 continuait à livrer du gaz russe. Il y a, de ce point de vue-là, une certaine hypocrisie.
Édouard Simon, l'Allemagne donc dépend du gaz russe plus que la France. Les deux pays n'ont donc pas les mêmes intérêts. Est-ce que ça peut affaiblir la stratégie européenne?
Alors, c'est clair que la Russie et la France, l'Allemagne et la France, pardon, n'ont pas les mêmes intérêts vis-à-vis de la Russie, et c'est clair que ça a des effets sur la mécanique de décision des sanctions. Pour autant, ce qu'on observe, c'est quand même une très grande unité des Européens, des Occidentaux face à la Russie. Bien sûr, il y a la mesure, la granularité des sanctions va évoluer et le fruit de compromis. On a évoqué effectivement, Philippe Chalmin a évoqué SWIFT, évoqué les exportations de matières premières de la Russie, hein, qui font le cœur des liens de dépendance de l'Europe vis-à-vis de la Russie. On n'y touche pas parce que on veut infliger on veut infliger des sanctions à la Russie sans se tirer une balle dans le pied. Et je pense que c'est aussi une des conditions de succès de ces sanctions, c'est faire en sorte que ces sanctions soient plus sévères pour celles qui les infligent que pour celles à qui elles sont infligées.
Cela dit, Édouard Simon, quand on parle de sanctions cette fois-ci que la Russie pourrait infliger en retour à l'Ouest, en fait, c'est surtout vers l'Europe parce que les États-Unis n'ont pratiquement pas d'échange avec la Russie. C'est d'abord l'Europe qui en pâtirait.
Oui, c'est d'abord l'Europe, mais c'est surtout d'abord la Russie, puisque en fait les balances commerciales et la dépendance entre les interdépendances entre Russie et l'Union européenne, c'est d'abord une dépendance de la Russie vis-à-vis des marchés européens. Alors, certes, ils pourraient couper l'accès des Européens au gaz russe. Cela étant, il faudrait qu'ils trouve d'autres acheteurs. Alors, c'est possible, mais ça aura un coût certain pour les Russes. Ça les rapprocherait des Chinois, c'est évident. C'est ce qui s'était passé en 2014 après les sanctions et les contre-sanctions suite à l'annexion de la Crimée. Mais ça a un coût géopolitique aussi pour la Russie de Poutine. Mais
Philippe Chalmin, comment on ferait en France avec 40% de gaz russe en moins dans nos stocks?
Alors attendez, il ne faut pas raisonner France, il faut raisonner Europe. Paradoxalement, la France, nous sommes beaucoup moins dépendants. Nous dépendons à peine aux alentours de 20% dans nos approvisionnements de gaz. Et d'autre part, nous sommes moins dépendants du gaz en tant que tel, puisque nous avons la chance d'avoir de l'énergie nucléaire. Je vous rappelle que le gaz, il sert grossièrement, enfin il sert à plusieurs choses, mais il sert, bien entendu, à vous chauffer directement. Là, on utilise directement du gaz. Et puis le gaz, il sert aussi à fabriquer de l'électricité, ce qui explique d'ailleurs que les tensions sur les prix du gaz se répercutent immédiatement sur les prix de l'électricité. Et puis je rappelle, puisque c'est le jour où s'ouvre le salon de l'agriculture, que le gaz, ça sert aussi à faire ce qu'on appelle des engrais azotés, dont les prix ont littéralement flambé. Et il faut bien se rendre compte d'ailleurs que la flambée des prix du gaz, elle est antérieure à l'affaire ukrainienne. L'année dernière, la moyenne 2021, les prix du gaz en Europe ont augmenté 397% par rapport à la moyenne 2020, qui était certes très basse, j'en conviens, mais ça n'avait l'élément géopolitique était là relativement secondaire. Alors nous, le gaz russe, à la limite, s'il n'y avait que la France, on arriverait à peu près à s'en passer, puisque on pourrait augmenter. Nous avons des capacités qui sont encore totalement utilisées d'importation de gaz naturel liquéfié.
En provenance des États-Unis, notamment.
Le cas de l'Allemagne, le cas de l'Italie. Et puis le cas de tous les pays des Balkans, plus vous allez vers l'Est, plus la dépendance au gaz russe est importante. Mais il faut raisonner avec finalement un réseau européen. Et en fait, la principale conséquence, ce n'est pas tant une question de pénurie, c'est une question de prix relativement élevé. Oui, on pourrait importer du GNL.
Gaz naturel liquide.
Voilà, liquéfié, mais ça nous coûterait cher, ce d'autant plus que c'est un marché qui est relativement tendu du fait de la demande en Asie. Donc, on se trouve dans une situation où, effectivement, nous avons une forte dépendance européenne. Je le répète, elle ne me semble pas quand même totalement insurmontable. Et si on voulait être vraiment sérieux, c'est probablement vers cela qu'il faudrait aller, je suis bien sensible à l'argument qui a été évoqué, tout en prenant le risque de précipiter un peu plus les Russes dans les bras des Chinois.
Édouard Simon, je vous pose à peu près la même question. Est-ce que l'Europe pourrait manquer de gaz, si ce n'est à la fin de cet hiver, plus probablement pour les stocks de l'hiver prochain peut-être ?
Oui, alors, c'est, effectivement, moi, je rejoins tout à fait Philippe Chalmin sur le fait que c'est le prix qui va compter. Et c'est d'ailleurs là-dessus que la Russie fait du chantage énergétique. La première réaction de Medvedev, à la déclaration de la suspension du processus de certification de Nord Stream 2, c'est préparez-vous à des prix très élevés en Europe. Donc on est vraiment dans ce chantage à l'énergie. Et je pense que un des enjeux pour les Européens, c'est de mettre en place aussi des instruments de solidarité pour lisser l'effet de ces sanctions et des contre-sanctions sur les économies européennes, puisque comme le disait très bien Philippe Chalmin, les effets de ces sanctions, de ces contre-sanctions ne seront pas les mêmes au sein des différentes économies européennes. Et je pense que c'est notre force de pouvoir avoir cette solidarité, cette interdépendance entre Européens, et il faut justement mettre en place, maintenant qu'on a mis ces sanctions, ok, elles sont pas maximales, mais probablement qu'il faut pas insulter l'avenir. Il faut se garder aussi quelques munitions, parce que la situation peut toujours s'aggraver à l'est de l'Europe, et donc on va avoir besoin très probablement d'un troisième train de sanctions. On verra quand est-ce qu'on pourra les prendre, quel élément les déclenchera.
Mais justement, parlons-en.
Et à ce moment-là.
Parlons-en de ce troisième train de sanctions. Pour l'instant, on s'est contenté de bloquer quelques avoirs, de réfléchir sur les facilités de la Russie à pouvoir échanger commercialement sur la scène internationale. Quel serait un troisième train de sanctions plus sévère ? Ça ressemblerait à quoi ?
Alors, si je peux me permettre, on a fait plus que ça, parce qu'on a quand même... on a quand même... profonde, enfin touché très substantiellement le réseau bancaire russe, les places bancaires et places financières russes. Bien sûr, on leur a pas coupé les ailes en leur coupant l'accès à SWIFT, ce qui les ramènerait un peu à l'âge de pierre hein, en termes de communication avec les réseaux bancaires internationaux. Donc ça, SWIFT, c'est clairement au cœur de ce que pourrait être un troisième train de sanctions, de la même façon que, effectivement, s'attaquer à nos dépendances vis-à-vis de la Russie, qui sont le cœur des exportations russes vis-à-vis de l'Europe, c'est les matières premières, c'est les minerais, c'est les métaux, c'est le gaz. Voilà, c'est
avec ça. Ce que ça... Philippe Chamelin a appelé un boycott total des exportations russes.
Tout à fait. Mais encore une fois, je pense que, enfin, là, il faut en garder un peu sous le pied. On a quand même, sur le moyen long terme, profondément touché, parce qu'on parle des places financières, mais il y a aussi l'accès aux technologies qui va être coupé. On sait que les Russes ont perdu presque une décennie en termes économiques suite à l'annexion de la Crimée. C'est probablement la même chose qui est en train de se passer maintenant.
Oui, enfin, cela
sur
dit,
le moyen long terme.
Cela dit, depuis 2014, et je vais poser la question à Philippe Chalmin, après les menaces de sanctions européennes qui ont suivi l'invasion de la Crimée, la Banque de Russie avait développé son propre système d'échange interbancaire international pour compenser ce qu'on veut limiter, ce qu'on pourrait éventuellement limiter, c'est-à-dire le système SWIFT. Est-ce que ce nouveau système d'échange russe est un système... Est-ce qu'on sait si c'est performant?
Écoutez, c'est vrai que depuis 2014, la Russie a survécu. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, que du point de vue des transferts de technologies, etc., elle a perdu du temps. Elle s'est de plus en plus rééquilibrée dans ses relations vers l'Est. C'est vrai qu'il y a de facto une sorte d'alliance entre la Chine et la Russie. Alors certes, une alliance qui est déséquilibrée, et je pense que Poutine sait très bien qu'il ne pèse pas très très lourd du point de vue économique face à l'ogre chinois. Néanmoins, nous parlions de gaz. L'équilibre de Nord Stream par rapport à Nord Stream 2, c'est le gazoduc Orgueil de Sibérie qui lui part de Sibérie du Nord et va vers la Chine. Donc on voit bien que le risque finalement des sanctions, c'est de précipiter un peu plus Poutine dans les bras de Xi Jinping. Maintenant, nous avons un pays qui est un agresseur. Nous avons l'Ukraine qui est envahie. Et objectivement, on reste l'arme au pied en disant, bah oui, on va envoyer des petites troupes en Lituanie, en Roumanie, etc. Bon, je dirais que c'est une incitation presque pour Poutine de continuer son boulot et d'écraser l'Ukraine. La seule chose qu'il peut comprendre maintenant, c'est une manière très forte. Et je le répète, la manière forte, ce serait effectivement de couper complètement toutes les relations bancaires entre l'appareil bancaire russe et le reste du monde. Et ça, ça peut se faire quand même si certains y sont réticents. Et ce serait, avec toutes les conséquences que cela peut avoir, ce serait le boycott des exportations russes, notamment vers l'Europe. C'est vrai que l'Europe est en première ligne, mais il me semble quand même que le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié depuis le mois de décembre s'appelle les États-Unis. Et les États-Unis ne peuvent pas éternellement ménager la chèvre et le chevou. C'est vrai que M. Biden... Et quand même, de ce point de vue-là, une immense déception.
Et Édouard Simon, pourquoi est-ce qu'en Europe, tout le monde n'a pas le même point de vue sur l'hypothèse de priver la Russie du réseau d'échange interbancaire international SWIFT? La France est pour, mais visiblement, pour l'instant, c'est repoussé. Ça bloque où? Pourquoi tout le monde n'est pas d'accord?
Parce qu'encore une fois, on en revient à la divergence d'intérêts, à la multitude d'intérêts qui existent en Europe sur les relations avec la Russie. Et typiquement, on sait que couper la Russie de SWIFT, ça aurait notamment très probablement des impacts sur des contrats gaziers, notamment. Donc, si à partir du moment où on coupe les exportations de gaz, dans ces cas-là, cette question est réglée. Mais c'est clair que pour les pays qui ont des relations commerciales avec la Russie, ça va leur faire mal aussi à eux. Donc il y a cette question effectivement de comment est-ce qu'on lisse les effets et comment est-ce qu'on permet de, disons, de lisser les effets négatifs pour les pays de l'Union européenne qui seraient les plus touchés, au premier rang desquels on va trouver effectivement l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche et effectivement un certain nombre d'économies d'Europe centrale et orientale.
Mais Philippe Chamin, il faut peut-être rappeler pourquoi ces sanctions, hypothèses de sanctions ou déjà celles lancées, c'est aussi le prendre le risque de tirer une balle dans l'économie européenne, dans le pied de l'économie européenne. Pourquoi ?
Tout simplement parce que, il faut pas se leurrer, ces sanctions vont se traduire éventuellement, bien entendu, par une diminution des courants d'exportation vers la Russie. Et ça peut toucher un certain nombre d'entreprises européennes, notamment françaises, qui sont relativement importantes en Russie. On sait qu'il y a 700 à 800 filiales d'entreprises françaises en Russie, donc ça n'est pas totalement négligeable. Et puis, de manière très concrète, c'est vrai que si on allait vers ce qui me semble quand même la réponse la plus adéquate, c'est-à-dire un boycott total, ben ce boycott total se traduirait incontestablement par des hausses de prix. Je pense essentiellement au gaz et donc à l'électricité. Alors vous me direz, c'est déjà fait. Et à la limite, je ne suis pas sûr que ce serait tellement pire, mais ça veut dire que nous paierions très durablement gaz, électricité, engrais, etc., beaucoup plus cher que nous n'avons fait par le passé. Cela pourrait poser aussi un certain nombre de problèmes sur quelques métaux sur lesquels nous avons une dépendance vis-à-vis de la Russie.
Lesquels précisément?
Je pense au palladium qui est utilisé dans les pots catalytiques pour dans l'industrie automobile. Alors ça peut toujours se remplacer par autre chose, mais enfin quand même ça a un coût. Je pense au titane sur lequel la dépendance est peut-être un peu plus faible, mais qui est utilisé dans les industries de l'armement et de l'aéronautique. Quelques autres métaux sur lesquels la dépendance à la Russie est peut-être un peu moins forte.
Édouard Simon, vous souhaitiez réagir sur ce point précis ?
Oui, il me semble que il faut être clair sur les objectifs des sanctions. Pour les Européens, pour les Américains et pour l'Occident, je suis pas certain que l'objectif des sanctions, objectivement, ce soit de mettre un terme à l'invasion ukrainienne. Vu les façons dont cette invasion a été décidée, on est quand même loin même du narratif de 2014 où on essaye de bâtir ce narratif sur la liberté des peuples à décider d'eux-mêmes, la demande d'annexion à la Russie. On est vraiment sur une guerre territoriale pure et simple au niveau européen, ce qui veut dire que la Russie poutinienne a accepté le coût politique, financier, économique et parie sur le moyen long terme. C'est-à-dire qu'il parie.
Édouard Simon, ça veut dire qu'on aurait dû être beaucoup plus sévère à l'époque, en 2014, lors de l'annexion de la Crimée par la Russie. On a laissé faire finalement en se bouchant le nez.
Je ne sais pas répondre à cette question, pour être tout à fait honnête. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'Union européenne, les Européens, ne vivent plus dans le même monde depuis le 24 février et qu'ils peuvent plus considérer la menace russe comme hypothétique. Ça, c'est clair. Même on doit envisager le scénario du pire, c'est clair. Et je pense qu'il ne faut pas avoir des attentes démesurées par rapport à ce train de sanctions. Les trains de sanctions feront mal à la Russie, c'est clair. Mais ne mettront certainement pas un terme à une action qui est basée sur le hard power, et on voit bien que c'est le hard power qui est important pour les Russes et que c'est là-dessus qu'ils misent, et ils misent sur une sorte de fatigue sur le moyen terme, très probablement de dissension entre Européens, entre Occidentaux, ce qui est probablement pas un très bon calcul.
Philippe Chalmin, vous souhaitiez réagir?
Oui, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vrai que je pense que les sanctions ne font qu'égratigner le front de Vladimir Poutine. Il est décidé. Comparaison n'est pas raison, mais ce qui est en train de se passer, c'est l'équivalent de l'invasion de la Pologne en 1939 par l'Allemagne. Certes, les armées françaises et anglaises avaient mobilisé, elles s'étaient bien gardées d'intervenir, et au mieux, elles avaient fait une petite incursion en Norvège. Pendant ce temps-là, d'ailleurs, Hitler s'alliait avec Staline, comme, là encore, comparaison n'est pas raison, Poutine s'allie avec Xi Jinping. Je pense que oui, c'est vrai que les sanctions, il faut les mettre en place, mais elles n'auront aucun impact sur les décisions de Poutine. Il veut liquider l'Ukraine, et manifestement, il le fera, puisque il n'y a aucune volonté de faire quoi que ce soit du côté européen,
merci.
Du côté de l'OTAN.
Plutôt. Merci à tous les deux. Merci Philippe Chalmin, donc historien, économiste, professeur à Paris Dauphine, et merci à Édouard Simon, directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des politiques industrielles et d'armement. Et puis un merci aussi à Angélique Boin, qui a mis en place ce duplex en direct de Bruxelles. Merci et bonne journée, il est 9h20.